Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day.
Les marchandes de sable, le roi Arthur, de Michael Morpurgo. Le banquet terminé, Merlin et moi restâmes seuls dans la salle à regarder mourir le feu. Percelé, couché de tout son long à mes pieds, le museau contre les braises, s'agitait nerveusement dans son sommeil. Nous étions silencieux, absorbés dans nos pensées. Au bout d'un moment, Merlin tisonna le feu du bout d'un bâton. Quelques étincelles se mêlèrent à la fumée qui s'élevait paresseusement dans la cheminée. « Vous voyez ce feu ?» me dit Merlin. C'est votre royaume, le peu qu'il en reste. Il l'attisa à nouveau. Il y a encore de la vie dedans, mais elle est cachée sous les cendres. Une étincelle ou deux, c'est tout ce qu'on en voit. Ses yeux plongèrent dans les miens. Il faut que l'étincelle devienne flamme, et la flamme brasier, Arthur. Un brasier suffisamment ardent pour chasser tous nos ennemis et exterminer la lèpre qui ronge ce pays. Ce feu, Arthur, c'est vous et vous seul qui pouvez l'allumer. Je ferai appel à tous mes pouvoirs pour vous aider, mais les forces du mal qui travaillent contre nous sont au moins aussi puissantes. Vos trois demi-sœurs n'auront pas de cesse qu'elles ne vous aient anéanti. La plus jeune d'entre elles, la fée Morgane, ne se laissera pas arrêter pour rien, pour récupérer le royaume qu'elle estime que vous avez usurpé. Et croyez-moi, elle dispose de tous les sortilèges voulus pour y parvenir. Il faudra que nous nous montrions suffisamment braves, suffisamment habile et suffisamment avisé pour en venir à bout. Quoi qu'il arrive, vous ne devrez jamais dévier de votre ligne de conduite. Votre royaume est un pays où prospère la cruauté et la cupidité, où aucun homme, aucune femme n'est assuré de vivre heureux et paisible durant toute son existence. Partout, dans chaque hameau, dans chaque ville, sévit la peur. Des chefs de bande et des brigands rôdent dans les campagnes en brûlant et en pillant tous leurs sous. Ivres de puissance et de convoitise, ils font ce qu'ils veulent. Partout, les paysans sont brutalisés, terrorisés, et ceux qui résistent sont massacrés. Ils n'ont pas de protecteurs. Personne n'a jamais eu autant besoin d'un roi que ces malheureux. Dans leurs masures, ils vous attendent avec impatience. Dans leurs églises, ils prient pour vous. C'est pour eux et pour Dieu que vous devez lutter. Arthur, jamais pour vous-même. Il m'empoigna par un bras. « Vous êtes prêt à vous battre ?»« Si vous êtes à mes côtés, » répondis-je, « je serai avec vous, mais seulement tant que vous aurez besoin de moi. Un jour viendra où je devrai partir ailleurs, aider quelqu'un d'autre. Mais il vous restera bercelé. » Il tendit le bras, prit dans l'âtre un tison carbonisé et traça sur le sol un triangle irrégulier. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Votre royaume, » répondit-il. Ou plutôt, ce qui devrait être votre royaume. Actuellement, vous ne régnez pratiquement nulle part. Vous êtes cerné de tous côtés par vos ennemis. Ici des Saxons, là d'autres Saxons. Ici des Pictes et là des Irlandais. Beaucoup de vos chevaliers se sont déjà ralliés à eux et combattront contre vous, par jalousie ou par cupidité. Et même ceux qui vous sont dévoués, les quelques fidèles qui ont festoyé ce soir en notre compagnie, n'ont jamais de leur vie entière goûté à la victoire. Ce sont des hommes courageux, des hommes loyaux, mais ils ont l'habitude de la défaite. Ils ont besoin de gagner, Arthur. Remportez une victoire sans les Saxons, une seule, et vous en remporterez 10. Vous en remporterez 100. Donnez un cheval à chaque homme, et ce que je vous dis se réalisera. Cela, au moins, je peux vous le promettre. Quand on est jeune, tout vous paraît possible. On ne commence à douter de soi-même qu'avec l'âge, et à cette époque-là, le doute m'était inconnu. Avec Merlin à mes côtés et des hommes montés sur de bons et solides chevaux, comme il l'avait conseillé, je partis affronter les Saxons. Nous formions une troupe disparate. Et au départ, nous n'étions qu'une poignée, mais notre effectif s'accrut en cours de route. Chaque village que nous traversions nous adjoignait un bûcheron, un fermier ou un charbonnier. Les uns étaient armés d'une hache, les autres d'une vieille épée toute rouillée, quand ce n'était pas d'un glaive datant du temps des Romains. Certains même n'avaient qu'une fourche. En nous voyant arriver, les Saxons ont dû rire à gorge déployée, un enfant roi imberbe et son armée de va-nu-pieds. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas deviner, ce qui ne se voyait pas, c'était l'acier flambant neuf dont étaient forgés nos cœurs et la terrible colère qui nous animait. À Mont-Bladon, ils nous affrontèrent avec l'assurance irréfléchie que confère l'outrecuidance. En dépit de leur longue épée et de leur grand bouclier, nous en vîmes facilement à bout et les exterminâmes sur place. Ils ne songeaient même pas à fuir. On dira ce qu'on voudra des Saxons, mais ce ne sont pas des lâches. Ils arrosèrent de leur sang le sol de la Bretagne qui en resta teinté à tout jamais. Partout où tu trouves de la terre rouge, tu peux te dire que des Saxons sont venus là et ils sont morts. La promesse de Merlin se réalisa. Mon armée guerroya pendant 3 ans et durant tout ce temps-là, je ne doutais pas un seul instant de notre invincibilité. Chaque victoire nous dotait d'une énergie nouvelle et de renforts supplémentaires. Chaque brave perdu au combat était aussitôt remplacé par 2, puis par 3, puis par 4, jusqu'à ce que nous soyons plus de 20 000, aguerris par les batailles et tous montés sur de bons chevaux. Les Pictes se dispersèrent dans les forêts et rentrèrent chez eux sans livrer un seul combat. Les Irlandais furent également informés du traitement que nous avions infligé aux Saxons et ils rembarquèrent au plus vite. Mais les Saxons n'en avaient pas encore fini avec nous. Ils formèrent une armée redoutable et vers du sud-ouest par la mer, espérant nous surprendre. Mais Merlin m'avertit à temps et nous les attendions de pied ferme. La bande de terre rouge qui traverse toute la Cornouaille indique l'endroit où nous les avons accueillis, acculés et anéantis. Je ne tire aucune fierté du sang répandu. Et je n'y pris aucun plaisir. Au cours de ces 3 années, j'assistais à plus de carnage que l'âme ne peut en supporter sans dommage. Une terrible colère me stimulait, si bien que je devins d'une folle témérité. Certains prenaient cela pour du courage, mais je savais à quoi m'en tenir. Parfois, dans le feu de l'action, un voile rouge me tombait devant les yeux. En assommant, en foyant, en tailladant, il me semblait devenir un autre, quelqu'un que je préférerais oublier. Croyez-moi, c'est facile de tuer un homme, bien trop facile. Prendre plaisir à tuer est facile aussi, et je m'en approchais dangereusement près. Seuls les fermes conseils de Merlin maintinrent mon visage levé vers le ciel et empêchèrent mon cœur de s'endurcir. Nos victoires et le prétendu courage de l'enfant roi Arthur amenèrent une foule de seigneurs et de chevaliers, et même des rois, à ma cour de Camelot. J'avais bâti un château au sommet d'une colline entourée de marécages qui l'isolait du monde extérieur. Ce fut là que je me retirai pour me reposer, après les guerres contre les Saxons. Je n'avais encore que 18 ans, j'étais l'idole de mon peuple et le vainqueur de l'envahisseur abhorré. C'était plus qu'il n'en fallait pour tourner la tête de n'importe quel jeune homme, et cela tourna la mienne, en dépit de la présence de Merlin à mes côtés. Dans ma candeur naïve, je croyais les combats terminés et m'imaginais que j'allais désormais pouvoir me consacrer à ce que Merlin appelait toujours mon métier de roi, le bien-être de mon peuple. Or, j'avais maintenant de nouveaux dangers à affronter. J'étais entouré de nouveaux ennemis, ces rois qui s'étaient alliés aux Saxons et refusaient toujours de me reconnaître comme leur souverain légitime. Le roi Lot d'Orkney, le roi Nantes de Garlo, le roi Idris et bien d'autres avec eux. Ils s'acoquinèrent et assiégèrent Bedegren, ma plus puissante forteresse des Midland. Si jamais ils s'en rendaient maître, ils disposeraient d'un camp retranché au cœur de mon royaume. Merlin ne me laissa pas un instant de repos. Il fallait les chasser. Aussi, tout fatigué que j'étais, physiquement et moralement, je repartis en campagne avec Merlin, à la tête de mon armée victorieuse. Le trajet fut long, et mes chevaliers languissaient dans la touffeur de l'été. En arrivant sur une crête, nous aperçûmes à nos pieds, à l'orée de la forêt, le château de Bedegren, entouré d'une armée importante qui nous attendait. Je regardais mes hommes et me rendis compte que pas un seul d'entre eux ne souhaitait livrer bataille. Je les compris. Et Merlin les comprit également, car ces gens-là n'étaient pas des Saxons, mais des Bretons comme nous. Et puis nous étions là, là de tuer. Disposez vos hommes sur tout le sommet de la colline, me conseilla Merlin, et commandez-leur de taper sur leurs boucliers avec leurs épées en criant à plein poumon et en faisant le plus de chahuts possible. Ce que nous fîmes, jusqu'à en avoir la voix cassée, jusqu'à ce que tous nos boucliers soient cabossés. Mais à ce moment-là, le gros de l'armée que nous dominions avait tourné casaque et pris la fuite. Quelques acharnés restèrent pour nous défier, dont le roi Lot et le roi Nantes. La bataille fut d'une violence inouïe, mais au moins, elle ne dura pas longtemps. Les deux, trois rebelles déguerpirent en abandonnant leurs morts sur le terrain. Ce soir-là, le champ de bataille fut noir de corbeaux charognards. Plusieurs des chevaliers ennemis vinrent ensuite implorer leur pardon. Merlin m'incita à me montrer grand et généreux et à leur pardonner. « Un ami de plus, disait-il, c'est un ennemi de moins. » Aussi ravalai-je ma colère et suivis son conseil. Ils me prêtèrent serment d'allégeance, séance tenante, et se joignirent à notre armée. Ce soir-là, le combat terminé, nous fêtâmes notre victoire au château de Baie de Graines. La conversation roula essentiellement sur la patrie et la paix, mais pendant que nous devisions, on va nous avertir que le roi Riance de Galles du Nord venait d'attaquer le château du roi Léo de Negrons de Camerland, qui avait lutté si bravement à mes côtés contre les Saxons. Je ne pouvais pas l'abandonner, et tout fatigué de la guerre qu'il l'était, je savais que mes chevaliers ne l'auraient pas voulu non plus. Riance était connu comme le sauvage du pays de Galles, une brute assoiffée de sang qui arborait un manteau tapageur, orné des barbes de tous les rois qu'il avait vaincus et tués. Aussi lui adressai-je un message, disant que ma barbe ne méritait guère que l'on se batte pour elle, mais qu'elle saurait à lui s'il parvenait à s'en emparer. Après quelques jours de repos, nous prîmes à contre-cœur la route de l'ouest et du pays de Galles. Nous fondîmes sur lui du haut des collines de Snowdon, et ses soldats détalèrent comme des moutons dès la première charge. Nous les poursuivîmes dans les vallées, où la plupart d'entre eux furent ravis de capituler. Riance s'y refusa, et le paya de sa vie. Je ramassai son manteau sur le champ de bataille et m'en couvris les épaules, tandis que nous chevauchions vers Camerland. Dieu sait pourquoi, Merlin essayait à chaque instant de me convaincre de passer la nuit ailleurs, de prendre directement le chemin de Camelot. Il insista beaucoup, mais j'étais grisée par ma victoire et j'avais hâte de revoir le roi Léo de Negrons. Et puis, je savais qu'un grand festin nous attendait et je n'aimais rien tant que de voir mes gens souriants et satisfaits autour de moi. Nous franchîmes le pont-levis en caracolant et reçûmes un accueil délirant du roi Léo de Negrons et des siens. Pendant le banquet, ce soir-là, je jetai au feu le manteau de Riance. Les flammes s'en emparèrent et le dévorèrent goulûment, et la salle vibra jusqu'au chevron des acclamations de joie et de soulagement. Après quoi, dans la solitude de ma chambre, enfiévrée par notre victoire et enivrée par la boisson, je m'étendis sur mon lit et tendis l'oreille aux troublants échos d'une harpe. C'était la première fois que j'entendais une musique aussi mélodieuse depuis le dernier jour où ma mère avait joué pour moi, quelques semaines seulement avant sa mort. Attirée comme par un aimant, je me levai, longeai la grande galerie et traversai la cour qui lui faisait suite. À chaque pas, la mélodie devenait plus proche et plus harmonieuse. Je m'arrêtai devant une fenêtre ouverte et jetai un coup d'œil dans la pièce. Elle était vide, à l'exception d'une fille, non, plutôt d'une femme assise à côté d'une harpe. En me haussant sur la pointe des pieds pour mieux la voir, je glissai bruyamment sur le pavé mouillé. Mais elle était si absorbée par sa musique qu'elle ne m'entendit pas et ne leva pas les yeux. Ses doigts couraient sur les cordes avec agilité. Ce fut de ses doigts, fins, blancs et dansants, que je tombai d'abord amoureux. Ses cheveux couleur de miel, de l'or mêlé de lait, me dissimulaient son visage, mais je n'avais pas besoin de le voir, car je savais déjà qu'il serait parfait. Je sentis une main se poser sur mon épaule. C'est la fille du roi Léo de Grons, dit la voix de Merlin. Elle est souffrante et a gardé la chambre. Comment s'appelle-t-elle ? Demandai-je. Guenièvre, répondit-il. la princesse Guenièvre. Pendant qu'il parlait, elle s'arrêta de jouer et tourna les yeux vers nous. Je ne m'étais pas trompée. Elle était absolument parfaite, avec un visage où la douceur et la force faisaient jeu égal. Mais elle était pâle, trop pâle. Son sourire, lorsqu'il apparut, était serein et chaleureux, et ses yeux sombres souriaient avec elle. « Merlin, murmurai-je, voilà la femme que j'épouserai. » Il essaya de m'entraîner. « Il y a d'autres poissons dans la mer, » dit-il. « Pas pour moi, » ripostai-je. « Je vais lui parler. » Mais Merlin ne me lâcha pas. « Non, Arthur !» Le ton était ferme, presque brutal. J'essayais de me libérer, mais il me tenait solidement. « Si vous l'épousez, cela ne vous causera que des soucis. Ce mariage entraînera votre ruine, ainsi que celle de votre royaume. Je sais ce que je dis. » « Et moi, je sais ce que j'éprouve, » rétorquai-je. Et pour la première fois, j'étais furieux contre Merlin. « N'ai-je pas toujours suivi vos conseils? N'ai-je pas libéré mon pays de ses envahisseurs? Dois-je me conformer éternellement à vos suggestions? Suis-je un roi ou un pantin ?» Merlin soupira et me tourna le dos. J'étais hors de moi. Je ne voulais pas me résoudre à le rappeler. Lorsque je me tournai à nouveau vers la fenêtre, Guenièvre était partie. Je fermai les yeux pour garder en mémoire l'image de sa beauté et je fis le serment, solennellement et au nom de Jésus, de ne jamais regarder une autre femme qu'elle et, le jour venu, de l'épouser. Quoi que Merlin puisse en dire. Je le jurai à haute voix, afin de m'entendre prononcer ma promesse et d'être sûr de la tenir. Ah, les promesses. Celles qu'on a envie de tenir, on les tient, mais les autres, c'est plus difficile. Je ne me cherche pas d'excuses, si ce n'est que j'étais jeune et impulsif. Quelques semaines plus tard, j'avais déjà trahi le premier de mes serments. Je résidais alors dans mon château de Caerlon. Merlin n'était pas avec moi. Blessé par ma rebuffade, il m'avait abandonné. Pour la première fois de ma vie, je n'avais personne à qui demander conseil, ni mère, ni père, ni Merlin. S'il avait été là, ce ne serait pas arrivé. Il n'aurait pas laissé la chose se produire, et si elle ne s'était pas produite. Cette femme sortit apparemment de nulle part, une inconnue surgit d'une nuit de tempête, à la recherche d'un abri. Elle soupa avec nous, et quand elle riait, je riais avec elle. Percelé grogna et montra les dents, mais je n'en tins pas compte. La vérité, c'est que cette femme me plaisait, et que l'adoration que je lisais dans ses yeux me plaisait également. Elle avait deux fois mon âge, mais pour un jeune homme de 18 printemps, ce genre de détail importe peu. C'était une femme. Cette nuit-là, aujourd'hui encore j'ai honte de l'avouer, je ne pensais pas une seule fois à Guenièvre. Ce ne furent pas les rugissements de l'orage qui m'empêchèrent de m'endormir. Ce fut le souvenir de l'inconnue, de la façon dont elle marchait, du parfum capiteux de sa chevelure, de l'invite de ses regards. Lorsqu'elle vint dans ma chambre, je fis semblant de dormir. Mais quand elle se glissa dans mon lit, je fus incapable de feindre. Mercelet gronda d'une façon menaçante. Il faut choisir, dit la femme, c'est lui ou moi. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Mercelet me lança un dernier regard d'avertissement. Je savais que c'était les yeux de Merlin qui me contemplaient, réprobateurs, déçus et néanmoins, d'une certaine manière, résignés. Je fis sortir le chien de ma chambre et retournai à mon lit. Je ne pouvais pas m'en douter, mais cette nuit-là, à Caerlon, je semais la graine de ma propre destruction. Lorsque je m'éveillai le lendemain matin, l'inconnu était parti. Et à ce moment-là seulement, je songeais à Guenièvre et à la façon dont j'avais trahi mon amour pour elle, à la façon dont j'avais rompu mon serment. Durant des jours et des jours après cela, je passais mes journées à cheval, à chasser dans la campagne environnante pour essayer d'oublier ce que j'avais fait. Mais je ne parvins pas à le chasser de mes pensées. Mécontent contre moi, je cherchais le réconfort dans la boisson, sans y gagner autre chose qu'une tête lourde et un cœur plus lourd encore. Il me tardait de revoir Guenièvre, tout en sachant combien j'aurais du mal à la regarder en face, après ce que j'avais fait. Il me tardait également de voir revenir Merlin, et de faire la paix avec lui.
Thank you.
Un matin, de bonne heure, alors que je m'apprêtais à partir à la chasse, un jeune écuyer arriva au galop dans la cour du palais, tirant par la bride un deuxième cheval en travers duquel gisait un corps sans vie. « Qui a fait cela ? » demandai-je. « Le roi Pélinor, » répondit-il. Ce nom faisait trembler. De tous les rois renégats et de tous les chefs de bande qui défiaient encore ma suzeraineté, Pélinor était le plus redouté, le plus cruel. « Il a assassiné mon maître, » continua l'écuyer, « et ceci sans l'ombre d'un motif. Nous étions à moins de 2 lieues d'ici, après avoir voyagé durant 2 semaines pour rallier le jeune roi Arthur. « Eh bien, vous voilà rendu, » dis-je, « et je suis cet Arthur que vous cherchez. » L'écuyer descendit de cheval et mit un genou en terre. « Messire Arthur, » dit-il, « je m'appelle Griflet. Mon maître venait pour vous servir, pour vous suivre, et il est mort avant d'avoir pu le faire. Permettez-moi de vous servir à sa place. Je veux voir agoniser le roi Pélinor, vautrer dans la fange qui est sa place. Permettez-moi de m'en charger, messire. Conférez-moi la chevalerie, armez-moi, et je vengerai le meurtre de mon maître. » Il était encore plus jeune que moi, et ses joues roses avaient une fraîcheur juvénile. Je ne pouvais pas l'envoyer combattre Pélinor qui n'en ferait qu'une bouchée. J'aurais dû refuser tout net et y aller à sa place. Mais ses yeux ardents m'imploraient, et pour être franc, je n'étais pas tellement désireux d'affronter ce Pélinor. « D'accord, » répondis-je, « mais soyez prudent. Ne chargez qu'une seule fois. Si vous êtes désarçonné, arrêtez le combat. Vous ne devez pas lutter à pied. Le roi Pélinor est l'un des meilleurs bretteurs du pays. Vous vous y engagez ?» Il promit, et je vis qu'il était décidé à tenir parole. Je l'adoubai donc sans plus tarder. Nous l'armâmes et il partit. Moins de 2 heures plus tard, un cheval fourbu entra dans la cour en galopinant, monté par Griflet qui vacillait sur sa selle, le visage convulsé par la souffrance et le flanc ouvert. Il essayait de comprimer sa blessure pour l'empêcher de saigner, mais il n'y parvenait pas, et le sang qui suintait entre ses doigts tombait à grosses gouttes sur le sol, à mes pieds. « J'ai tenu parole, messire, » dit-il en s'efforçant de sourire malgré sa douleur. Nous l'aidâmes à descendre de cheval et à gagner le château pour s'y faire penser. Furieux, beaucoup d'entre nous étaient prêts à se lancer incontinent aux trousses de Pélinor. Mais je décidai que j'irais seul. Cette décision me fut dictée par l'orgueil et peut-être aussi par quelques remords. Armé d'une épée et d'une lance, Bersolet trottinant à côté de mon cheval, je franchis le pont-levis et m'engageai sur l'étroite route qui traversait la forêt. Je n'avais pas fait beaucoup de chemin lorsque j'aperçus la bannière de Pélinor, plantée à côté d'une source dans laquelle se désaltérait son cheval. Mais de lui, aucune trace, en dehors de son bouclier qui se balançait à la branche d'un vieux chêne. « Pélinor, » appelai-je, « sortez de votre cachette. Vous êtes peut-être capable de corriger un gamin, mais je suis d'une autre trempe. Montrez-vous si vous l'osez. » De l'ombre du sous-bois surgit un véritable colosse, son homme sous le bras. « Aujourd'hui, » continuai-je, « vous avez tué un homme et blessé un jouvenceau. Et tout cela pourquoi ?»« Parce que je joute contre quiconque passe par ici, » répondit le roi Pélinor. « Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je fais ce qui me plaît, où il me plaît et quand il me plaît. Et il me plaît de désarçonner des chevaliers. » « Dans ce cas, » rétorquai-je, irrité par son arrogance, « vous feriez bien de monter sur votre cheval, car moi aussi il me plaît de désarçonner les gens. » Il sourit, enfourcha lestement son destrier et se mit en selle. « Eh bien, allons-y » dit-il. « Qu'est-ce qu'on attend ?» Nous prîmes nos distances, fîmes 2 vitours et calâmes nos lances au creux de l'épaule. Je sentis mon cheval se ramasser sous moi. Je le talonnai et lui lâchai les rênes. Il s'élança, la lance pointée sur le centre du bouclier de Pélinor, tous les muscles noués, je me préparai au choc. Il fut si brutal que les 2 lances volèrent en éclats. « Vous êtes bon !» me cria-t-il en faisant faire demi-tour à son cheval qui s'ébrouait en piaffant. « Vous êtes même très bon, mais vous n'êtes pas suffisamment bon. On recommence, d'accord ?» Et il fit apporter 2 autres lances. Ce fut à ce moment-là que je remarquai que Bersolet s'enfonçait délibérément sous le couvert. Pendant un instant, je me demandais ce qu'il faisait, où il allait. « Votre chien est un malin, » ricana le roi Pélinor. Il sait quand il est temps de se dérober. Vous voulez en faire autant ? Je pris la lance qu'on me tendait. Ne parlez donc pas tant, lui criai-je. Piquez des deux ! Et pour la seconde fois, nous chargeâmes. Pour la seconde fois, les lances furent pulvérisées, mais ce coup-ci, je faillis être désarçonné et je compris que j'avais trouvé à qui parler. Une troisième fois, je m'élançai vers lui, mon bouclier plaqué contre ma poitrine, le corps couché sur ma lance, toutes les fibres de mon énergie concentrées sur la pointe de ma lance et cette pointe braquée sur le centre de son bouclier, sur son cœur. Mon cheval fit-il un écart à la dernière seconde ? Avais-je surestimé mes forces ? Je ne le saurais jamais. Quoi qu'il en soit, je fus touché hors d'aplomb. Le roi Pélinor me souleva de ma selle et m'envoya mordre la poussière, le souffle coupé. Puisant un regain de colère dans cette humiliation, je me relevai aussitôt, l'épée au poing, et attendis mon adversaire de pied ferme. Il mit pied à terre, dégaina et se jeta sur moi comme un forcené, m'obligeant à reculer. Je ripostai de mon mieux en parant ses coups avec mon bouclier, mais celui-ci me fit arracher. Du sang coulait de mon cou, et je compris brusquement que ce n'était plus pour gagner que je me battais, mais pour défendre ma vie. Avec l'énergie du désespoir, je fis tournoyer mon épée au-dessus de ma tête et je l'abattis de toutes mes forces sur son aume. J'avais fendu en deux plus d'un saxon avec un coup pareil, mais cette fois, ma lame n'entama pas le fer. Au lieu de cela, elle se brisa net et je me retrouvai avec la seule poignée de mon épée au poing, ne sachant même pas de quel côté était partie la lame. Avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, je fus renversé et cloué au sol, l'épée de mon adversaire portée sur ma gorge. Je pensais alors à Guenièvre et aux deux serments que j'avais violés. J'avais commencé par trahir mon amour pour elle, et maintenant je ne l'épouserai jamais. Je ne la reverrai même pas. « Suppliez-moi » cria-t-il. « Implorez ma clémence, et je me laisserai peut-être fléchir. » Si la défaite était humiliante, la capitulation était impensable. Il se peut que ce soit la pensée de ne jamais revoir Guenièvre qui m'insouffla des forces nouvelles. Je ne sais pas. Je me tortillais, roulais sur moi-même, bondis sur mes pieds et me ruais sur lui. Je lui fis sauter son épée des mains et nous luttâmes dans la poussière comme des bêtes. Mais il était trop fort, trop lourd pour moi. J'avais le dessous et je le savais. Ma volonté faiblissait continuellement. Alors que j'étais sur le dos, ses doigts autour de mon cou, je vis Bercelet sortir des bois en aboyant. Peut-être pour me prévenir, peut-être pour me sauver la vie. De toute manière, c'était trop tard. Le roi Pélinor avait de nouveau son épée à la main. Le soleil la fit scintiller et je fermai les yeux pour ne pas voir venir la mort. Mais elle ne vint pas. Lorsque je les rouvris, le bras brandi du roi Pélinor était figé à la verticale. « Ça suffit !» dit la voix de Merlin. « Si vous le tuez, Pélinor, vous tuerez du même coup l'espoir de la Bretagne. Cet homme est Arthur, votre suzerain. » Il retira l'épée de la main crispée du roi Pélinor. « Vous êtes Arthur ?» murmura le roi Pélinor. « Qu'ai-je fait, bon Dieu, qu'ai-je fait ?» Et sur ces mots, il ferma les yeux et s'effondra comme une masse à côté de moi. Merlin m'aida à me relever. « Comment m'avez-vous trouvé ?» lui demandai-je. « Il me semblait pourtant vous avoir prévenu, » répondit-il doucement. « Bercelé mes yeux et mes oreilles. Même quand je ne suis pas à vos côtés, vous n'êtes jamais hors de ma vue, digne de mes pensées. » Et en l'étreignant, je me rappelais qu'il avait déjà dû assister à ma mauvaise action de la nuit de Caerleon. « Vous m'avez manqué, » dis-je. « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû me mettre en colère contre vous. Mais j'aimais Guenièvre à ce moment-là, et je l'aime toujours. »« Je sais, » dit Merlin. « Et je sais également que je n'y peux rien. » Pour moi, c'est parfois pénible, parce que je suis au courant de ce qui va arriver. Il y a tant de choses que je ne voudrais pas voir se produire que j'essaie de m'y opposer, tout en sachant pertinemment que je ne peux pas. Notre querelle fut tout autant ma faute que la vôtre. Si c'est ce que vous désirez, alors vous aurez Guenièvre pour reine. Il me tint un bout de bras et m'examina en hochant la tête. Mais je me rends compte que Bercelet n'est pas suffisant pour vous protéger en mon absence. Il est temps d'aller chercher Excalibur. « Excalibur ? Qui est Excalibur ?»« Vous verrez, » dit Merlin. « Et Pélinor, qu'est-ce qu'on en fait ?» demandai-je. « On ne peut pas l'abandonner d'aller dans cet état. Même si je ne l'apprécie guère, c'est un excellent jouteur. Jusqu'ici, personne ne m'avait encore battu. » Et ils ne vous auraient jamais battu, Arthur, si vous n'aviez pas passé vos soirées à vous enivrer ces derniers temps, ce qui a amoindri vos forces. Ce n'est pas un mal. La défaite est une bonne école. On finit toujours par tomber sur quelqu'un de plus rapide, de plus adroit, de plus fort. Il est exact que bien peu d'adversaires l'emporteront sur vous, mais il s'en trouvera quand même quelques-uns. L'un d'entre eux, en particulier, fort comme un lion, deviendra le plus vaillant de vos chevaliers et le meilleur de vos amis, durant quelque temps, tout au moins. Et un autre de vos chevaliers, encore plus fort que le précédent, puisera sa force dans sa bonté, dans sa pureté. Ne m'hésite pas davantage, je vous prie, dis-je. Ce que j'ignore ne saurait m'affliger. Quand je voudrais savoir, je vous le demanderai. Promettez-moi que ce jour-là, vous me direz toujours la vérité. Et promettez-moi de ne plus rien me dire sans que je vous l'ai demandé. Vous êtes bien sage pour votre âge, Arthur, dit Merlin. Mais c'est entendu. Je vous promets de ne rien vous dévoiler sur votre avenir sans que vous m'ayez interrogé, et de vous dire alors toute la vérité. Et ne vous tracassez pas pour le roi Pélinor, je ne lui ai fait aucun mal. Dans quelques heures, il se réveillera tellement honteux d'avoir levé la main sur vous qu'il deviendra l'un de vos alliés les plus sûrs, l'un de vos amis les plus loyaux. Je suis beaucoup plus inquiet pour vous que pour lui. Il faut faire examiner ses blessures sans tarder, après quoi nous irons chercher Excalibur. Je passai les 3 jours suivants en compagnie de Merlin, dans la grotte d'un ermite, au fond de la forêt, à attendre que mes plaies cicatrisent. Et quand Merlin déclara qu'il était temps de partir, j'étais encore tout raide et endolori. Sous la conduite de Bercelet, qui semblait toujours savoir où il allait, nous nous enfonçâmes encore plus profondément dans les bois. Des pistes de cerf finirent par nous amener dans une région découverte, déserte, où je n'avais encore jamais mis les pieds. La soirée était paisible, tiède, et les mouches étaient couchées lorsque nous atteignîmes enfin un grand lac qui nous empêcha d'aller plus loin. À notre approche, des hérons poussèrent des cris effarouchés et partirent d'un vol lourd se réfugier dans les collines boisées qui s'élevaient de l'autre côté de l'eau. Percelet entreprit d'explorer les roseaux en quête de canards et il en fit lever quelques-uns qui s'envolèrent au ras de l'eau en laissant derrière eux le lac parfaitement silencieux sous la brume qui commençait à tomber en drapant de blanc le sommet des arbres du rivage. Merlin rappela Percelet qui vint de mauvaise grâce s'ébrouiller en nous aspergeant de gouttelettes d'eau. « Maintenant, on attend, » annonça Merlin. « Où sommes-nous ? » demandai-je. « Ce lac sépare la vie de la mort, Arthur. Derrière les brumes se cache l'île d'Avalon. Ceux qui l'habitent ne sont pas des vivants, mais ce ne sont pas non plus des morts. Ils sont dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Bien qu'ils n'appartiennent pas à notre monde, ils peuvent néanmoins y venir. Ils détiennent des pouvoirs terrestres et des pouvoirs surnaturels. Des pouvoirs pour le bien et des pouvoirs pour le mal. Cependant, ce lac n'est qu'un lac comme les autres. Et où est cet Excalibur ? Demandai-je encore. Et de quoi s'agit-il d'ailleurs ? Vous ne pouvez pas me le dire ? Oh, arrêtez de poser des questions, Arthur, dit Merlin. Soudain, il se pencha en avant et tendit le bras. Regardez ! Je regardais, mais je commençais par ne rien voir. Puis, sous mes yeux, la surface de l'eau se rida et s'ouvrit. Et à ma profonde stupeur, je vis émerger du lac une épée scintillante, brandie par une main que prolongeait un bras gainé de soie blanche. « Voilà votre réponse, » chuchota Merlin. « Cette épée s'appelle Excalibur. Elle vient du demi-monde d'Avalon, où sa lame a été forgée par les elfes. Et son fourreau, tissé par Dame Nemuée, en personne, la Dame du Lac, qui est également ma dame. En prononçant son nom, sa voix s'altéra. Tenez, la voici. Et des brumes sortit une silhouette drapée de vaporeux voiles verts. Elle marchait sur l'eau, mais comme le lac restait absolument lisse sous ses pieds, on aurait plutôt cru qu'elle flottait en l'air. Elle vint vers nous, portant à deux mains un fourreau auquel était fixé un ceinturon. À la façon dont elle regardait Merlin et dont il la regardait, je compris qu'un très ancien amour les unissait, un amour toujours vivace. Le sourire secret qui faisait briller les yeux de la dame n'était destiné qu'à Merlin. Mais quand elle prit la parole, ce fut à moi qu'elle s'adressa. « Messire Arthur, j'ai fait ce fourreau pour vous. Il est tissé avec l'or d'Avalon. Gardez-le toujours sur vous. Toujours, vous avez compris ?»« Mais l'épée, dis-je, comment aurais-je l'épée ? Devrais-je aller la chercher à la nage ?»« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit-elle en souriant aimablement. Et pendant qu'elle parlait, j'aperçus une barque échouée dans les roseaux. D'où elle venait et comment elle était arrivée là, je l'ignore. « Montez, » dit-elle, je n'hésitais pas. Dès que je fus dans la barque, elle se mit en mouvement et glissa sans bruit sur les eaux noires en direction du bras dressé au milieu du lac. Lorsque nous en fûmes tout proches, elle ralentit jusqu'à s'arrêter une seconde, juste le temps pour moi de tendre la main et d'empoigner l'épée par la lame. Le bras s'enfonça dans le lac et je le suivis des yeux jusqu'à ce que le dernier doigt ait disparu. Je m'assis au fond de la barque et regardai l'épée posée sur mes genoux. Sa poignée, incrustée d'or et de pierreries, s'adaptait à ma main au mieux qu'aucune de celles que j'avais tenues jusque-là. Sa lame était la plus importante que j'ai jamais vue. Et cependant, elle me paraissait aussi légère qu'une plume, comme si elle était un prolongement de mon bras et non une arme. La barque atteignit la rive et je levai les yeux. Merlin m'attendait, le fourreau à la main. La dame du lac n'était pas en vue. Je glissai l'épée dans le fourreau et Merlin boucla le ceinturon autour de ma taille. Il recula d'un pas pour m'examiner. « Eh bien, vous voilà en possession d'Excalibur. Qu'est-ce que vous préférez, Arthur ? L'épée ou le fourreau ?»« L'épée, bien sûr, » répondis-je en déguinant pour la première fois. « Un fourreau sans épée ne serait d'aucune utilité. » « Pas celui-ci, » dit Merlin. « Croyez-moi, Arthur, si vous suivez le conseil de la Dame du Lac et portez le fourreau attaché à votre taille, alors vous ne perdrez jamais une seule goutte de sang. Excalibur peut vous procurer la victoire, la gloire et l'honneur. Elle peut faucher vos ennemis comme des épis mûrs, mais c'est le fourreau qui assurera en toutes circonstances votre sécurité. Ne vous en séparez jamais, Arthur, quoi qu'il arrive. Elle l'a fabriqué spécialement à votre intention pour me faire plaisir. » Cette femme est le grand amour de ma vie. Un jour, continua-t-il rêveusement, un jour j'irai la retrouver, mais pas encore. Lorsqu'il se tourna vers moi, il avait les yeux pleins de larmes. Il faut que nous soyons réunis. Elle est toujours dans mes pensées. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas, Arthur ? Je ne le comprenais que trop bien. Combien de temps resterez-vous encore auprès de moi, Merlin ? Demandai-je. « Un moment, » répondit-il, « un petit moment. Et d'ailleurs, je ne vous abandonnerai jamais complètement, vous le savez bien. Vous aurez toujours Bercelet. » Et Bercelet vint auprès de moi et pour la deuxième fois s'ébroua en m'aspergeant de la tête aux pieds. « C'est évidemment une consolation, » dis-je en riant, « une grande consolation. » Nous rentrâmes donc à Camelot avec Excalibur. Ce soir-là, je fis circuler Excalibur autour de la table, afin que tous mes chevaliers puissent l'examiner et la prendre en main. Chacun d'eux l'embrassa respectueusement afin de la passer à son voisin. Parmi eux se trouvait Pélénor, venu implorer son pardon pour devenir l'un des nôtres, comme l'avait prédit Merlin. Je décidai qu'il pouvait demeurer avec nous, à condition de commencer par faire la paix avec Griflet. Griflet et lui s'étreignirent chaleureusement devant toute la compagnie, et la salle vibra d'applaudissements. À dater de ce jour, jamais deux chevaliers ne furent plus grands amis que Pélénor et Griflet. Quelques semaines seulement s'étaient écoulées lorsque nous apprîmes que le roi Lot et le roi Nantes avaient levé une nouvelle armée et marché vers le sud pour nous attaquer. En voilà deux qui ne reverront pas le printemps, s'exclama Pélénor. Permettez-moi de m'en charger, messire. J'hésitais. Doutant encore de sa loyauté, mais Merlin se pencha vers moi et me parla à l'oreille. « Faites-le confiance, Arthur. Laissez-le partir. » Pélénor prit donc Griflet et une centaine de bons soldats de notre armée, et ils se mirent en route dès le lendemain matin. Ils étaient partis depuis un mois lorsqu'un messager nous apporta les boucliers du roi Lot et du roi Nantes. Pélénor avait tendu une embuscade, tué les deux rois de sa main et dispersé leur armée, dont il poursuivait actuellement les lambeaux vers le nord. Ce soir-là, dans la cour du château, je contemplais, appuyé sur mon bâton, les boucliers des deux rois que nous avions accrochés au mur lorsque Merlin vint me rejoindre. Il ne dit pas Je vous l'avais bien dit, mais il le pensait. Cela se voyait à son sourire. C'est le bâton que je vous ai donné, dit-il. Puis-je vous l'emprunter un instant ? Et sur ces mots, il me le prit des mains et l'enfonça dans le sol. Aussitôt, un arbre sortit de terre, d'abord simple baliveau, puis chêne majestueux qui se développa jusqu'à dominer toute la cour. « Quand vous serez assis à l'ombre de ces branches, Arthur, » me dit Merlin, « pensez à moi et rappelez-vous ce que je vous ai dit un jour au sujet des glands. » Il se baissa, ramassa une poignée de glands et me l'étendit. « Gardez-les, » dit-il. « Je suis fier de vous, Arthur. Je ne pourrais pas l'être davantage si vous étiez mon propre fils. Et comme j'aurais aimé que vous le soyez. » En regardant le vieil homme s'éloigner, je fus submergé par une vague de tristesse. Je savais maintenant qu'il me quitterait bientôt. Et je comprenais aussi à quel point je me sentirais alors seule.